Ça a commencé pendant la guerre. Je vous parle de la deuxième, celle de 39-45. Dans ces années-là, le réconfort est venu d'une voix sur les ondes américaines et européennes, c'est celle de Frank Sinatra. Aujourd'hui, Pop & Co et Francis Albert Sinatra, dit The Voice, un homme qui a traversé le siècle. Il n'a écrit quasiment aucune des chansons qu'il a interprétées, mais chacune d'entre elles raconte sa vie autant que l'histoire des États-Unis. Sinatra a inventé la figure moderne du chanteur et de la pop star. Il a susurré l'amour romantique aux oreilles des filles, il s'est marré avec ses potes du Rat Pack qui faisaient imaginer à ses auditeurs masculins qu'eux et lui étaient copains. En 1994, à l'occasion d'une cérémonie où un prix lui a été remis, Bono, leader du groupe U2, a déclaré « Frank Sinatra n'a jamais aimé le rock'n'roll, mais ce n'est pas réciproque. Les gens du rock'n'roll adorent Sinatra. » Parce qu'il possède tout ce que nous recherchons, la classe et l'attitude. Les rockers font semblant d'être des durs, mais ce type, c'est le chef, le caïd de la pop. Mesdames et messieurs, soyez prêts à accueillir un homme plus lourd que l'Empire State Building et aussi célèbre que la Statue de la Liberté. Jusqu'à midi, Pop & Co est une plongée dans une vie faite de chutes et de gloire. Sur sa tombe, Frank Sinatra a choisi les mots suivants comme épitaphe « Le meilleur est à venir ». Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Printemps 2020, New York est confiné, et le soir, comme dans d'autres villes, les habitants sont à leurs fenêtres pour rendre hommage aux soignants. Mais le 16 avril, depuis des milliers de balcons et appartements, les New-Yorkais mettent le volume à fond pour ajouter une voix à leurs applaudissements. C'est celle de Sinatra chantant « New York, New York ». Sinatra qui clame « Je veux me réveiller dans la ville qui ne dort jamais ».
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York.
Pourquoi la voix de Sinatra en plein confinement? Parce qu'en plus, ce n'est pas lui qui a créé cette chanson, c'est Liza Minnelli dans le film de Martin Scorsese, justement intitulé « New York, New York ». Mais cette chanson, c'est Sinatra. Avec ses premiers vers qui disent « Répandez la nouvelle, je veux faire partie de New York et constater que je suis le roi ». Pourquoi la voix de Sinatra en plein confinement? Parce que lui a survécu à tout. Parce que c'est l'histoire d'un jeune homme taillé comme un moineau qui rembourrait ses vestes pour avoir l'air d'être taillé comme une armoire. Parce qu'à la face du monde, Sinatra a commencé en disant
Frank Sinatra, Frank fucking Sinatra.
Lui s'appelle Steven Jesovanier, il est l'auteur de la biographie Frank Sinatra, une mythologie américaine.
I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list.
Sinatra s'approprie New York, New York en 1980. Il a 65 ans.
On lui dit, tiens, elle est pas mal cette chanson, vraiment faite pour toi, on dirait qu'elle te parle. Et ça, c'est une caractéristique de Sinatra qui, tout au long de sa carrière, a cherché, il écrit pas, il a dû écrire un ou deux titres tout au long de sa carrière, mais il choisit ses chansons, des chansons qui lui parlent. Puis en plus, il est là dans cet âge mûr et il se retourne sur sa carrière et c'est un espèce de dialogue avec lui-même, ce gamin de Hoboken qui a grandi donc de l'autre côté de l'Hudson, devant New York, sous New York. Et il avait l'habitude, lui, de traverser le ferry, gamin, et d'aller là-bas rêver sous les néons. Et cette chanson qui annonce, qui dit « Vous verrez, un jour j'y serai, un jour je serai New York », elle est comme une espèce de prophétie énoncée une fois qu'elle s'est réalisée.
It's up to you, New York, New
Et l'ascension de Sinatra a commencé à ce moment-là. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, extrait des actualités françaises.
Les escadrilles nippones attaquent Pearl Harbor, où se trouve mouillée la flotte des États-Unis. Un agrandissement photographique nous montre l'attaque nippone contre l'aérodrome de l'île de Ford, près du port de Pearl Harbor. 9 décembre 1941, la flotte américaine de Pearl Harbor est en partie détruite.
Et pendant ce temps, sur les ondes américaines, pour réconforter les cœurs, on entendait...
I'll never smile again.
Je sais que je ne pourrai plus sourire à nouveau, jusqu'à te sourire, à toi. I'll never smile again, c'est le titre de ce morceau, joué par l'orchestre de Tommy Dorsey, dans lequel Sinatra est chanteur soliste.
What good would it do for tears would fill my eyes, my heart would realize that I...
La voix de Sinatra agit comme un baume pour les femmes américaines restées seules, tandis que les maris sont partis au front.
C'est cette chanson qui rencontre un grand succès et fera dire à Churchill, lui dira « Vous êtes autant anglais que vous êtes américain, vous faites partie de ma nation parce que vous avez aidé ma nation à traverser les nuits d'horreur pendant le Blitz de Londres. » On est à une époque où la guerre a dégarni les rangs des grands orchestres, des big bands, et puis en plus s'ajoute une grève des musiciens de studio. Et donc les maisons de disques, pour remplacer ça, vont prendre des groupes vocaux. Et donc la voix passe de plus en plus au premier plan. Donc il y a vraiment un contexte qui est favorable à Sinatra et c'est pile le moment où il se lance en solo.
C'est-à-dire qu'avant, les stars, c'était l'orchestre, c'était pas le chanteur.
Ah oui, la star, c'est l'orchestre, c'est le chef d'orchestre et les solistes qui arrivent. Les chanteurs, ils sont assis sur une chaise ou derrière un pupitre. Et puis ils se lèvent quand viennent leur tour, ils chantent 2-3 morceaux et retournent s'asseoir. Là, ça joue des coudes entre solistes.
Entre musicien, soliste et lui.
Et lui, ouais, parce qu'il devient un rival. Et c'est vrai que sa voix, elle est extrêmement instrumentale. Et il se calque, lui, il prend modèle sur les instruments, sur le trombone, sur la clarinette, sur les cuivres. Il apprend sur le tas, il n'a aucune formation, si ce n'est un coach vocal qui est en fait un ancien chanteur d'opéra viré parce qu'alcoolique. Mais c'est tout ce qu'il a. Le reste, c'est de l'observation, de l'écoute, de l'oreille. Alors, il y a eu des grandes stars avant lui, mais déjà de la voix, Bing Crosby, qui est le modèle de Sinatra. Mais c'est vrai qu'à la sortie de la guerre, Sinatra participe au fait de redessiner le paysage musical américain. Avec cette figure du chanteur s'imposant lui comme un nouveau modèle, finalement.
Until I smile at you.
This is the National Broadcasting Company.
Les chanteurs arrivent au premier plan pour prendre quelque part la place des solistes instrumentaux. Et lorsqu'il est dans l'orchestre de Tommy Dorsey, au début de sa carrière, Sinatra, il observe le trombone de Dorsey. Dorsey, il a une respiration cyclique. Et en fait, on a l'impression qu'il peut tenir des notes plus que quiconque. Et Sinatra se rend compte qu'en fait, évidemment, il y a une astuce. Il récupère sa respiration sur la commissure de la lèvre. Et Sinatra s'entraîne à faire ça.
And listen to Frank Sinatra.
Every time you're near a rose, aren't you glad that you got a nose? And if the dawn is fresh with dew, aren't you glad you're you?
C'est-à-dire que, oui, c'est un crooner, oui, il est totalement admiratif de Bing Crosby, de ses syllabes qui coulent et se déversent dans les oreilles de l'auditeur, mais en même temps, il va très tôt apprendre à rebondir sur certaines syllabes, sur des sons, les dentales, et apprendre à faire rebondir ses vers là-dessus, du coup, pour leur donner, impulser une rythmique très particulière qui fait toute la saveur et qui lui donne ce petit air canaille qu'il a dans ses chansons et qui font aussi le succès de son identité.
Aren't you glad that you were born? Think what you got the whole day through. Hey, aren't you glad you're you?
En ce début des années 40, arrive une invention miraculeuse, à savoir ceci, le micro.
C'est l'invention presque miraculeuse qui va aider Sinatra, c'est son arme absolue. Le micro va apporter le crooning, c'est-à-dire cet art de susurrer à l'oreille de l'auditeur, parce que du coup il crée une intimité avec le spectateur et l'auditeur. Sinatra, il en a un art très particulier, parce qu'il ne veut pas non plus que ça soit un obstacle. Il veut totalement une proximité directe avec l'auditeur, surtout l'auditrice. Et donc, il a cette façon de choisir des micros noirs et des cravates noires pour dissimuler le micro qui porte sous le menton pour presque qu'il ne se voit plus, qu'il s'efface dans le rapport direct à son public.
Public en Amérique et de l'autre côté de l'Atlantique.
Ici Paris, radiodiffusion française.
Nous sommes le 10 mai 1945 et voici...
Ce soir en France.
Ce soir-là, on se réjouit de la victoire des Alliés à l'écoute d'une nouvelle idole américaine.
Frank Sinatra, c'est ce que vous appelez un chanteur de charme. Il a une popularité monstre parmi les Américaines, surtout auprès des très jeunes. Dernièrement, Frank Sinatra chantait dans un grand théâtre en Amérique, et pour être certain d'avoir des places, une foule de ses très jeunes admiratrices avait commencé à faire la queue dès 4 heures du matin. La police survint et conduisit ces jeunes filles au poste, les accusant d'encombrer la voie publique à une heure trop tardive. Frank Sinatra intervint en leur faveur et les choses en restèrent là.
You know that you took a part that used to be my heart. So why not take all of me?
Vous savez que vous avez pris mon cœur, chante Sinatra. Alors pourquoi ne pas prendre tout de moi? Et il termine en disant, bon, prends tout tant qu'il est temps, chérie, parce que je vais bientôt quitter la ville.
Sinatra, c'est un personnage extrêmement complexe, qui est à la fois un mélange d'assurance, côté canaille, un panache, et une vulnérabilité derrière. Ce savant mélange va dessiner un nouveau modèle de masculinité, petite bouclette au front, romantique, et puis les années de guerre ont emmené les hommes loin, les filles se retrouvent seules, elles travaillent, elles ont des revenus, elles peuvent acheter des disques, et voilà aussi une des recettes qui va faire de Sinatra la star qu'il devient dans les années 40.
Ça me parle parce que ma mère était super fan. Bon, tu vas me poser des questions, je te raconterai, mais c'est rigolo.
Vous connaissez cette voix, c'est Vali, chanteuse, journaliste, productrice de radio, née aux États-Unis.
Dans mon histoire familiale, c'est très proche parce que ma mère était super fan de Frank Sinatra parce qu'elle a grandi, elle est née en 1922, donc dans les années 40, elle avait 20 ans, etc. Elle était issue de ce, je ne sais pas si vous connaissez le mode des Bobby Tuxers, c'était des jeunes femmes dans les années 40 qui portaient les petites derbies blanches avec une espèce de rayure au milieu en noir et les petites chaussettes blanches. Et toutes ces filles-là étaient fans du swing. Et donc ma mère, je me souviens, à la maison, elle mettait ses vinyles, elle chantait dans toute la maison. Elle a grandi à New Jersey et comme Frank Sinatra est né à Hoboken, qui est un port sur le Hudson River, qui est juste en face de Manhattan, et elle l'appelait Old Blue Eyes, même dans les années 60-70. Les vieux yeux bleus. Et je suis convaincue que mes Beatles étaient sans Frank Sinatra, parce qu'elle m'a expliqué à l'époque que c'était le premier chanteur où les filles criaient pendant les concerts. Et les filles devenaient folles. C'est vraiment, c'était la première fois que ça existe. Donc, quand on a vu les Beatles sur Ed Sullivan et toutes les filles crier, il dit, oh là là, c'était comme ça il y a 20 ans pour Frank Sinatra.
Steven Gesovanier, biographe de Sinatra.
Son manager, George Evans, a l'idée de cultiver ça. Il va distribuer quelques billets pour qu'elle crie un peu plus fort. Et puis ensuite, c'est l'effet de groupe qui va faire le reste. Des évanouissements vont commencer à s'observer dans les files d'attente, dans les théâtres. Alors, et d'émotion, et aussi parce que les théâtres, on achetait un ticket et on pouvait y rester la journée entière et suivre les différentes représentations. Donc les filles ne sortaient plus des théâtres et assistait à toutes les représentations de Sinatra, sans manger ni boire parfois, ce qui fait que Sinatra venait dans les files d'attente. Et du coup, il distribuait lui-même des sandwichs et des nounours dans la file d'attente pour entretenir sa légende. C'est à cette époque-là qu'il prend les surnoms de sultan des pamoisons et tout ça, parce que du coup, voilà, il fait tomber les filles, pâmer les filles. Même Roosevelt, quand il le recevra à la Maison Blanche, lui dira « Alors c'est lui qui fait tomber les filles ?» Ben, donc
1944. Restaurant The Players à Los Angeles, là où les stars ont leurs habitudes. Humphrey Bogart croise Sinatra et lui dit « On m'a dit que ta voix faisait défaillir les filles. Ben vas-y, fais-moi défaillir. » Réponse de Sinatra « Désolé, j'ai pris une semaine de congé. »
I've got you under my skin. I've got you in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. Time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
France Inter.
Yes, I've got you.
Bob & Co.
Under my skin.
Rebecca Manzoni.
Il y a eu une erreur. Ça n'est pas le bon nom écrit sur les registres. Lorsque le grand-père paternel de Sinatra est arrivé de Sicile aux États-Unis, les agents du gouvernement ont changé Sinatra en Sinestro. Frank, le petit-fils, est le premier-né d'une famille de migrants italiens sur le sol américain. Steven Gesovagni.
Et il grandit à Hoboken, donc banlieue côté New Jersey de New York, dans une ville portuaire, ouvrière, qui est habitée, morcelée par des communautés. La communauté italienne est l'une des dernières arrivées. Sinatra, lui, il naît en 1915 et il naît dans un contexte où le nativisme est très fort aux États-Unis. Il y a une forte, évidemment, ségrégation, mais aussi une espèce de hiérarchie inconsciente de, voilà, plus une famille va être blanche et installée de longue date dans le pays, plus elle aura sa place et sera considérée. Et les Italiens, dans cette espèce de hiérarchie, sont à peine au-dessus, considérés à peine au-dessus des Noirs. Et Sinatra est témoin de ça dans cette ville morcelée de Hoboken, quand il voit les affrontements de bandes de gamins, de jeunes, et voilà, il grandit là-dedans, imprégné de ça.
Mais d'ailleurs, il a gardé son nom italien.
Ça, c'est une des caractéristiques. C'est vrai que la plupart des chanteurs de sa génération, comme Dean Martin, Tony Bennett, qui sont d'ascendance italienne, changent de nom pour lisser les choses. Son propre père, à Sinatra, a changé de nom. Lui, il boxait. Et la communauté irlandaise était mieux considérée. Donc lui, il prenait le pseudonyme de Marty O'Brien. Et Sinatra, lui, va tenir à son nom. Et lorsque il va rentrer dans l'orchestre, dans le big band de Harry James lui dit, tu sais, tu devrais peut-être changer de nom, c'est pas terrible, l'assonance italienne, ça sonne mal, c'est pas la clé du succès, tu devrais t'appeler Frankie Satin. Et Sinatra l'a dit, non, mais c'est hors de question. Moi, c'est Frank Sinatra. Frank fucking Sinatra.
En 1945, Frank Sinatra participe bénévolement au court-métrage antiraciste The House I Live In, la maison dans laquelle je vis. Il est réalisé par Mervyn LeRoy et Albert Maltz, deux réalisateurs étiquetés communistes. C'est le film le plus engagé depuis les débuts de l'industrie hollywoodienne. The House I Live In est aussi le titre de la chanson que Sinatra interprète dans le film.
What is America to me? A name, a map, or a flag I see. A certain word. Democracy.
Qu'est-ce que l'Amérique pour moi? Un nom, une carte ou un drapeau que je vois? Un mot particulier, démocratie.
A house I live in, a plot of earth, a street, the grocer and the butcher, and the people that I meet.
Les enfants dans la cour, les visages que je vois, toutes les races et religions, c'est ce que l'Amérique est pour moi.
Et Sinatra va chanter quelle est son image de l'Amérique. Une Amérique de brassage, une Amérique telle qu'elle est, c'est-à-dire qui a ses apports de différentes vagues migratoires, différentes influences culturelles qui se marient, s'embrassent, pour générer quelque chose de beau et quelque chose de qui porte l'espoir, en tout cas, qu'avaient les migrants en arrivant là.
That's America to
Il défend les artistes noirs, il n'hésite pas à envoyer les gros bras qui sont derrière lui pour aller casser des bras ou des jambes ou menacer ceux, les patrons de boîtes qui refuseraient l'accès et un cachet identique à des artistes noirs. Donc quand il écrit dans Ebony, donc un magazine emblématique de la presse afro-américaine, il prend parti, il assume, il dit voilà, moi mes influences sont des influences noires, les artistes qui ont tracé mon imaginaire artistique sont Billie Holiday, sont Duke Ellington, sont toutes ces figures-là.
Et il y a aussi Count Basie. Ils enregistrent un album ensemble intitulé Sinatra Basie en 1962. Et dans les notes de pochette, on lit qu'au moment d'entrer en studio, Sinatra a murmuré « J'attends ce moment depuis plus de 20 ans ». Deux ans plus tard, Basie et Sinatra se retrouvent à nouveau en studio. C'est l'album « It Might As Well Be Swing » et ça commence par
« Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on » A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
the door. In other words, please be true. In other words, I love you.
Sinatra, on a l'image peut-être en France du personnage vieillissant, du vieux crooner, de la variété américaine si on veut forcer le trait, mais il est considéré en égal par les musiciens de jazz. Miles Davis emportait toujours avec lui en tournée des albums de Sinatra. Il y a un lien entre eux. Ils se reconnaissaient comme de ce monde-là. Et ses albums, ses réalisations et ses tournées avec Count Basie étaient un moyen de tracer cette filiation, de l'assumer, de la montrer, non seulement dans l'intérêt de Sinatra de se tracer dans cette filiation-là, mais aussi de se montrer en égal. Cette fameuse pochette de l'album commun avec Count Basie, ils sont côte à côte, en égal, leurs noms côte à côte inscrits dans la même police et de même taille. Et ça, symboliquement, c'est un musicien noir, un chanteur blanc, côte à côte, d'égal à égal. Et d'ailleurs, l'album est sous-titré un événement historique.
Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Mais, dès la fin des années 40, le succès phénoménal de Sinatra, pour lequel on invente le mot Sinatra-mania, plus ses prises de position politique contre la ségrégation et contre le McCarthyisme, tout ça, donc, attire l'attention du FBI.
C'est le FBI qui va commencer à recevoir des lettres qui le comparent à Hitler, en se disant « mais l'influence de sa voix et l'effet qu'elle produit sur la jeunesse » Non seulement on peut pervertir la jeunesse, c'est ce qu'on dit, et puis voilà, il y a aussi un arrière-plan de jazz et tout ça, il y a aussi ça hein, qui est dans l'imaginaire collectif. Je rappelle que dans les années 20, le jazz, il y a des psychiatres qui disaient que ça avait le même effet que le whisky et que écouter trop de jazz pouvait libérer des pulsions tapis. On s'inquiète même de l'influence de sifflements dans les enregistrements, et c'est fou. Et c'est avec ça que va s'ouvrir le dossier Sinatra au FBI, dossier qui compte quand même plus de 1200 pages, c'est plus que certains parrains de la mafia quand même.
Et la mafia, Sinatra connaît bien. Dans le premier volet du film Le Parrain, réalisé par Francis Ford Coppola en 1972, le personnage du chanteur Johnny Fontane est inspiré de Sinatra. On le voit chialer dans le giron du patriarche de la mafia, interprété par Marlon Brando au début du film. Dans la vie réelle, Sinatra est pris en photo avec les cousins d'Al Capone en 1947. On les voit ensemble faire la bomboche à La Havane. Or, La Havane est le refuge de Lucky Luciano, le capo di tutti, le grand chef de la pègre.
Toute la vie, toute la carrière de Sinatra est jalonnée de liens avec la pègre. Dès ses tout débuts, sa mère, Dolly, ouvre un bar en pleine prohibition, bar qu'elle appelle le M.O.B., Mob, qui est le surnom de la mafia aux États-Unis. Des gangsters y sont, il y a notamment un gangster qui s'appelle Jimmy Blue Eyes, qui est un porte-flingue, qui lui se souvient avoir connu du Sinatra quand il était petit, et il dit, ben oui, il voulait être un gangster, ce petit connard. Ça n'est que ça, et c'est tout le temps ça, et on sait que lorsque Tommy Dorsey ne voulait pas lâcher Sinatra, donc là, le phénomène démarrait, Dorsey avait un contrat d'exclusivité avec Sinatra, il ne voulait pas le laisser partir pour prendre son envol, et il y a une histoire qui raconte que ça a fini avec un flingue sur la tempe pour qu'il le laisse partir. Mais en même temps, comme il le clame, et il a raison de le clamer, c'est pendant la Prohibition, depuis la Prohibition, les années 20, beaucoup, énormément de clubs sont tenus par la mafia. Tous les artistes qui vont faire carrière, qui ont fait carrière, sont passés par là. Il y a eu des poignées de main avec des mafieux. Alors, après, il y a eu des liens plus ou moins étroit. Et c'est vrai que Sinatra, c'est quand même quelqu'un qui est dévoré d'ambition et qui a une admiration, une fascination pour le pouvoir et les hommes de pouvoir. Quand il était gamin à Hoboken, Sinatra, dans la communauté italienne, les seuls types qui avaient de belles bagnoles et des costumes complets, c'était les gangsters. Donc il y a ça aussi derrière comme image. Les mafieux aiment aussi une chose, c'est qu'il ait gardé son nom, qu'il assume son identité italienne. Et ça, dès ses tout débuts, ce qui ont fait d'ailleurs que les parrains l'ont soutenu au moment où il en avait besoin.
À la fin des années 40, ça ne va pas fort pour Sinatra. Ses liens avec la pègre font scandale. Il quitte le sommet des hit-parades et les salles sont vides. En avril 1950, il donne un concert au Copacabana Club de New York et s'arrête d'un coup. Le chef d'orchestre le regarde. Sinatra porte un mouchoir à sa bouche. Le mouchoir est plein de sang. Sinatra s'excuse auprès du public et rejoint les coulisses. Frank Sinatra, dit The Voice, a perdu sa voix. Alors, il va renaître au cinéma. Il veut décrocher le rôle d'Angelo Maggio dans Tant qu'il y aura des hommes, sorti sur les écrans en 1953. Ce personnage de soldat italo-new-yorkais, alcoolique et fragile, c'est lui. Il en est certain. Mais Harry Cohn, producteur du film, ne veut pas d'une vedette sur le déclin. À partir de là, plusieurs biographes de Sinatra supposent que la mafia est intervenue pour qu'il décroche le rôle. Pour son interprétation de Maggio, Sinatra obtient un Oscar. Dans ces mêmes années, Sinatra vit un amour fou et destructeur avec une femme qui est au firmament de sa gloire. C'est Ava Gardner. La bande-son de cet amour, c'est, entre autres, la reprise qu'il fait de ce morceau « I'm a fool to want you »,« Je suis fou de te vouloir ».
I'm a fool to want you.
Je suis fou de vouloir un amour qui ne peut être vrai. Je suis fou de partager un baiser que ce démon a connu. À chaque fois, j'ai dit que j'allais te quitter. Plusieurs fois, j'ai dit que j'allais partir. Mais reprends-moi, je t'aime. J'ai besoin de toi.
Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Time and time again I said I'd leave you.
C'est Ava Gardner en réalité qui lui a appris à chanter comme ça, qui lui a donné ce timbre et cette façon de chanter.
C'est Ava Gardner qui en a fait un chanteur de tragédie.
Oui, tout à fait, exactement. C'est ça, parce qu'il a vécu cette tragédie. Ava Gardner, elle est trop semblable à lui. Elle n'est pas du tout dévouée, elle est totalement libre, c'est un peu une croqueuse d'hommes aussi, et Sinatra ne peut pas la voir, en fait. Il est fou d'elle. C'est ce qui fait qu'elle, du coup, prend ses distances, mais c'est ce qui fait qu'il l'aime encore plus. Enfin, c'est fichu, c'était fichu d'avance, leur relation, et elle est totalement explosive, qui est assez courte, hein, qui dure de 50 à 53, le divorce est prononcé. Et cette relation est très importante, c'est fondatrice du personnage. Et il s'en remettra jamais. Sinatra ne se remettra jamais de cet impossible amour.
I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along.
Steven Gesovanier, auteur de la biographie Frank Sinatra, une mythologie américaine.
Et il va se faire le grand spécialiste des saloon songs. C'est ces chansons qui reflètent exactement le type qui est noyé de déprime après une déception amoureuse et qui boit des coups tout seul au comptoir d'un bar à 2h du matin, ce qui est aussi l'un des visages récurrents de Sinatra. C'est quand même le type qui hissait dans sa propriété le drapeau de Jack Daniels. Quand il se faisait des soirées de boissons, il hissait le drapeau Jack Daniels et puis le lendemain, le drapeau Alka-Seltzer parce qu'il fallait se remettre de la cuite. Et c'est ça la saloon song, c'est celui qui pleure et qui boit et qui noie son chagrin dans l'alcool. Et il y a une anecdote d'ailleurs là-dessus, c'est on lui dit souvent à Sinatra, mais le pays entier, tous les hommes du pays quand ils ont un chagrin, écoutent ta chanson. Mais du coup, qu'est-ce que tu écoutes toi quand tu as un chagrin ?
Angel eyes, that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent? Misspent with angel eyes tonight.
Le titre de ce morceau, c'est Angel Eyes, yeux d'ange, le surnom que Sinatra donnait à Ava Gardner. Et il chante « Des yeux d'ange que le diable a envoyés. Ai-je besoin de dire que mon amour a été mal dépensé? Alors buvez tous, abusez-vous, gens heureux, j'offre les boissons et les rires. »
Typiquement, en fait, je trouve que ça reflète très bien le personnage de Sinatra. La chanson raconte, vous voyez, une fête qui est donnée et le chanteur est là et dit allez-y, buvez ce que vous voulez, riez tant que vous voulez, tout ça c'est pour moi, mais excusez-moi, mais il faut que je m'éclipse. Et c'est cette solitude au milieu de la fête, au milieu de l'éruption comme ça, de l'effervescence festive, je trouve que c'est tout à fait Sinatra.
Pardon me, but I gotta run. The facts uncommonly clear. I gotta find who's now the number one and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear.
Excusez-moi, je disparais. Ce sont les derniers mots d'Angel Eyes. Après sa renaissance sur grand écran, Sinatra renaît donc sur disque en façonnant le personnage de l'amoureux éconduit. Le grand séducteur qui a pris cher, le public adhère. Et c'est aussi grâce à sa rencontre avec un arrangeur fantastique qui va devenir un collaborateur. Il s'appelle Nelson Riddle.
You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray.
Avec Nelson Riddle, Sinatra invente le principe de l'album concept, des recueils de chansons cohérents qui racontent ses humeurs, sa mélancolie et son entrain.
Déjà, le décor. Nelson Riddle, tout comme Sinatra, veille à ce que l'orchestration colle au plus près des paroles, au plus près de l'émotion qui se cache derrière elle. Donc il faut de l'espoir quand il y a de l'espoir, il faut de la déprime quand il y a de la déprime. Et puis, Nelson Riddle, il a un petit ingrédient. Il essaye, chaque fois en tout cas qu'il fait les morceaux un peu festifs, il calque ses arrangements sur l'acte sexuel. Et il veille à ce que ce ne soit jamais la fin en apothéose, que le morceau ne finisse pas en apothéose, mais qu'il y ait une apothéose avant, quelques secondes après, de relâchement.
Running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young.
En gros, il y a l'acmé et puis après on est bien. Quoi.
Ouais, c'est ça. Et après on fume une clope. Et voilà. Il a enregistré le soir, parce qu'il aimait bien que sa voix ait chauffé tout au long de la journée, qu'elle se soit un petit peu fatiguée sous la cigarette et le whisky. Et il enregistrait et donnait rendez-vous en général vers 20h. Et puis il passait une nuit à enregistrer. Il était capable, pour la chanson, d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire quelques jours avant, pour voilà, pas non plus esquinter sa voix. Donc il était capable de se ménager. C'est bien, d'ailleurs, sans doute l'un des seuls moments où il était capable de se réfréner et d'avoir une autodiscipline.
Et en voilà plusieurs qui ne peuvent pas raison garder. Ce sont les filles qui voient Elvis débouler avec ses lèvres ourlées et son bassin pris de mouvements brusques et soudains, au point que la télé américaine ne montre jamais sa silhouette en dessous de son nombril. Et Frank semble là depuis toujours, avec ses nœuds papes comme des cerfs-volants et son smoking.
Alors c'est étonnant parce que il adresse au rock'n'roll, il dit que c'est la pire chose qui soit, la forme la plus dégénérée, chantée par des crétins. Enfin, il regarde ça avec un mépris absolu, mais comme la plupart des artistes de son rang et de sa génération, il dit ça durera pas. Donc il est pas très inquiet, en tout cas en apparence, parce que dans le secret, quand même, il écoute les albums d'Elvis et ça l'énerve, il brise les disques parce que c'est quand même quelqu'un qui est habité par une rage, hein, une colère comme ça en permanence. Ça le déstabilise parce que lui, il est l'incarnation typique de ce qu'on a appelé par la suite le Great American Songbook. C'est le grand répertoire américain, c'est la pop traditionnelle antérieure à l'émergence du rock'n'roll. Tous les grands titres, les Cole Porter, tout ça, c'est lui qui a habité cette chanson. Et quand le rock'n'roll arrive, bah, quelque part, ça le balaye et ça le ringardise.
Pourtant, Sinatra n'a pas dit son dernier mot. Le 12 mai 1960, il invite Elvis dans un show qu'il anime à la télé. Sinatra séduit par l'autodérision, en faisant de l'humour sur la différence de génération entre Elvis et lui. L'émission s'intitule « Welcome Home Elvis », parce que le King rentre de son service militaire en Allemagne. Ensemble, ils interprètent « Love Me Tender », tube d'Elvis, mais dans le style de Sinatra. Et les filles hurlent, comme si on appuyait sur un bouton « on-off ». On quand Elvis chante, off quand c'est Sinatra.
Et il y a un petit jeu d'inversion, et Sinatra a l'art de la mise en scène, et il sait faire en sorte que ce soit lui, la vraie star en fait, qui est non pas un passage de témoin, mais en fait celui qui survit à l'autre. Et ce qui est étonnant, c'est que le rock'n'roll suscite les mêmes émois, les mêmes et les mêmes reproches que ce qu'il a suscité lui 10, 15, 20 ans plus tôt.
Inter, actualité.
20 janvier 1961.
Jean Lefebvre au micro. Eh bien, depuis midi heure locale, c'est-à-dire 18h pour nous, heure de Paris, John Fitzgerald Kennedy est, pour 4 ans, le 35e président des États-Unis.
Sinatra a toujours plus ou moins soutenu les candidats démocrates, et celui-là, plus que tout, parce qu'il se reconnaît totalement dedans. Ils ont les mêmes caractères, ils ont ce même appétit à la fois pour le pouvoir, pour les femmes, pour briller, pour la lumière, mais à tous les deux aussi hantés et incarnent des ombres aussi à leur façon. Et donc, deviennent amis, et c'est Joe Kennedy, père de JFK. Alors, Joe Kennedy, il faut peut-être le présenter en deux mots. Il a fait fortune, notamment à l'époque de la Prohibition, et a lui-même frayé un peu avec les gangsters et la mafia. Et c'est surtout un stratège hors pair, en politique, et son poulain, c'est son fils, JFK, qui va pousser jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Et Joe Kennedy a l'idée de, voilà, se dit Sinatra, mais c'est parfait, parce que non seulement il a cette notoriété, il peut amener avec lui le tout Hollywood, parce que Sinatra, à l'époque, c'est le Sinatra du Rat Pack, c'est celui avec sa bande de copains, Sammy Davis Jr., Dean Martin, et tout Hollywood est derrière Sinatra.
Pour son pote de beuverie et de partie fine, Sinatra a fait modifier les paroles d'une chanson de comédie musicale. Ça s'intitule High Hopes, grands espoirs donc. Et c'est ainsi que Sinatra interpréta un hymne de campagne pour Kennedy.
Everyone is voting for Jack, 'cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track, 'cause he's got high hopes.
Puis Sinatra, c'est aussi le lien avec la pègre. Elle va aussi, dans l'ombre, servir d'intermédiaire avec la mafia, et notamment le personnage ténébreux de Sam Giancana, qui est un des grands patrons de la mafia de Chicago, qui va investir des fonds pour lui faire remporter l'Illinois, l'un des swinging states, et faire basculer de 112 000 voix l'élection en faveur de Kennedy.
Entre ses penchants noceurs invétérés avec ses potes Sammy Davis Jr. et Dean Martin, membres d'une bande que Lauren Bacall a baptisée le Rat Pack, la bande des rats. Entre ces liens avérés très étroits, selon le FBI, entre Sinatra et la mafia, Bobby Kennedy, frère du président, juge plus prudent d'écarter Sinatra.
Il y a une scène emblématique de ça. On annonce que Kennedy, donc élu, va venir sur la côte ouest pour faire une visite officielle. Et Sinatra est pressenti pour l'accueillir chez lui. Alors Sinatra sort le grand jeu, parce que c'est ça aussi un Sinatra. Sinatra aime le pouvoir, mais aime servir le pouvoir aussi. Il fait construire un héliport, des bungalows pour les gardes du corps, il fait poser de nouvelles lignes téléphoniques sécurisées, monter un mât pour pouvoir hisser le drapeau, tout ça. Enfin, il fait tout ce qu'il faut. Sauf que Sinatra, vraiment, là, il s'avère que le FBI avertit quand même Bobby Kennedy, donc le frère de JFK, et lui dit c'est vraiment problématique, Sinatra, les liens avec la mafia sont de plus en plus avérés, tout ça. Donc décision est prise finalement d'aller chez Bing Crosby, le vieux crooner, le vieux modèle de Sinatra, qui vote républicain, qui a une réputation beaucoup plus lisse. Et là pour Sinatra c'est la déchirure, il paraît qu'il pique l'une de ses colères dévastatrices, il prend une masse, détruit à lui seul l'héliport, la chambre qu'il avait fait faire pour JFK. Voilà, c'est l'histoire emblématique d'une rupture profonde.
Un monstre terrifié, c'est comme ça qu'Ava Gardner a défini Sinatra. Un monstre terrifié dont le public a adoré les chutes et les renaissances. Un homme qui a surmonté les scandales, les tentatives de suicide plus ou moins simulées pour tenter de garder Ava Gardner. Il a surmonté aussi l'arrivée du rock'n'roll, puis de la pop anglaise avec les Beatles et consorts qui auraient pu le balayer. Sinatra, ou l'histoire d'un homme qui a survécu à tout.
But now the days are short, I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine old cakes. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year.
Il est toute l'Amérique. Il incarne tous les visages de la mythologie américaine. Il est le fils de migrants italiens. Il est un peu le cow-boy solitaire, il est l'ami des présidents et des parrains de la mafia, il est le self-made man, qui est cette figure archétypale de l'imaginaire américain. Il a traversé tout le XXe siècle, il a un côté pionnier de l'Ouest, parce qu'il a créé quelque part Las Vegas, ce visage de cité du vice. C'est ça, c'est lui, c'est le Rat Pack, ça, qui ont fait ça. Il est aussi la star, il a été le sexe symbole, il est en même temps celui qui a chuté, qui s'est relevé, il est un businessman incroyable, il est le succès, il incarne le succès total dans tous les domaines.
Le 14 mai 1998, Frank Sinatra décède d'une crise cardiaque à Los Angeles. Avant qu'il ne soit inhumé, ses enfants glissent dans ses poches une flasque de whisky Jack Daniels, un paquet de Camel sans filtre, son briquet Zippo en or, un paquet de bonbons et quelques pièces de 10 cents au cas où il voudrait passer un coup de téléphone. Elle revisite les mythes américains du siècle passé. C'est Lana Del Rey en playlist sur Inter. Pour ce Pop and Sinatra, on a plongé dans Frank Sinatra, une mythologie américaine, biographie signée Steven Gézovanier, qui se lit comme un roman et qui a paru aux éditions Le Mot et le Reste. Koyan Guyen a réalisé cette émission avec Louis Audebert ce matin. Ilinka Negulesco a préparé Pop & Co avec Stéphanie Valois et Jean-Baptiste Audibert pilote la programmation musicale. La semaine prochaine, je vous propose la réécoute d'un Pop & Co sur la façon dont la chanson française a parlé d'homosexualité depuis les années 50. Suivront un Pop & Co Björk, puis un Pop & Nougaro. À samedi.